La grande équation.
Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'évolution au cœur de la biologie contemporaine. On ne s'aperçoit pas toujours de l'importance de la théorie de l'évolution dans l'étude et le comportement et le développement de toute la vie sur Terre. Encore aujourd'hui, on a tendance à s'imaginer une ligne directrice, une force qui amène immanquablement le développement de la vie vers l'espèce humaine. Or, la théorie de l'évolution nous dit que ce n'est pas le cas, que la vie se développe sans but particulier autre que celui de se reproduire et de survivre. Cette découverte a pris de longues années à s'intégrer formellement en biologie, aussi surprenamment qu'on le pense. Et c'est de cela dont va parler notre invité d'aujourd'hui, Pierre Kerner. Pierre Kerner, qui est maître de conférences à l'Université Paris-Diderot, il est chercheur à l'Institut Jacques Monod. Il est aussi passionné de vulgarisation scientifique et très actif sur la toile en publiant régulièrement des billets sous le pseudonyme de Topo sur son site SAFT, Strange Stuff and Funky Things, donc ssaft.com. Je rencontre Pierre Kerner dans les locaux de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Pierre Kerner, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Qu'est-ce que c'est que faire de la biologie aujourd'hui?
Qu'est-ce que c'est de faire de la biologie aujourd'hui? Bah, ça va dans énormément de domaines différents. Du coup, je me sens pas quelconque autorité pour pouvoir en parler en tant qu'expert de biologie. Mais celle que j'approche, c'est la génétique, et plus particulièrement la génétique évolutive. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on s'aperçoit de plus en plus que à l'heure actuelle, la biologie, c'est d'essayer de recouper le plus de disciplines possibles. Et par exemple, moi, je travaille dans une discipline qui s'appelle l'évo-dévo, pour la génétique évolutive du développement, et donc qui rejoint trois disciplines, génétique, études de l'évolution et études du développement.
Et ces trois disciplines à l'intérieur de la biologie.
Oui, voilà, c'est ça. Et de plus en plus, on voit qu'il y a cette tendance à arriver à de nouvelles fusion, coalescence de ces disciplines. Et là, actuellement, il y a une nouvelle discipline qui apparaît qui s'appelle l'éco-évo-dévo et qui est justement la fusion entre l'écologie et l'évo-dévo. Et donc, je pense que s'il y a une tendance qu'on peut noter en biologie ces temps-ci, c'est que de plus en plus, les disciplines se rejoignent alors que au 19e et 20e siècle, elles avaient tendance justement à s'éloigner pour arriver à de plus en plus de spécialisations possibles.
Mais on imagine souvent, quand on parle de biologiste, quelqu'un qui va travailler dans un lac, dans un écosystème, faire des prélèvements, des études plutôt macroscopiques. Mais ce que vous me décrivez, c'est pas ça.
Non. Typiquement, moi, dans mon travail, et je pense que ce qui s'est fait régulièrement dans ces disciplines-là, c'est qu'on a essayé de retirer un tout petit peu, enfin, pour certains aspects de la biologie, l'aspect du terrain, pour se concentrer un tout petit peu sur des choses un petit peu plus fondamentales, et de fait travailler dans un laboratoire. Du coup, l'aspect génétique s'est concentré à essayer d'expliquer le fonctionnement de la cellule, le fonctionnement de l'hérédité, en travaillant sur des organismes de laboratoire, élevés en laboratoire. Et les thématiques sont, on peut même à l'heure actuelle remarquer qu'il y a de moins en moins de spécialistes de terrain et en écologie, de moins en moins de personnes capables de véritablement avoir une vue d'ensemble de la biologie, de plus en plus de spécialistes. Et on s'aperçoit que justement cette tendance est assez néfaste dans la compréhension générale de la biologie.
Mais malgré tout, si on veut, la biologie aujourd'hui est un petit peu dominée par les bouleversements qu'on a connus dans le séquençage.
Oui, ça c'est évident. Et jusqu'au point où ça a, d'une certaine manière, éclipsé certains aspects fondamentaux de la biologie pour parler du tout génétique, etc. Et on en vient maintenant un peu à assimiler les informations qu'on a comprises et les paradigmes généraux de la génétique pour maintenant retourner un tout petit peu à l'état où on en était et d'essayer de décrire la nature, les mécanismes biologiques de manière générale en ayant assimilé tout ce qui était génétique.
Donc on va revenir, si on veut, vers le macro, mais avec une compréhension peut-être beaucoup plus fine de la partie génétique en dessous.
Exactement. Tout en ayant en plus le fait que maintenant la génétique offre la possibilité d'avoir des outils extrêmement efficaces, notamment pour comprendre ce que sont ces organismes macroscopiques et les étudier de manière extrêmement détaillée, tout en ayant la possibilité de comprendre aussi les mécanismes génétiques de ces organismes macroscopiques. Je sais pas si j'ai été très très clair.
On va avancer. Je pense que ça va se clarifier. Dans cet aspect-là, est-ce qu'on peut dire qu'aussi que la biologie, quand même, la génétique bouleverse ce qu'on avait compris du haut en regardant les écosystèmes?
Oui, ça c'est nécessairement vrai. Alors, d'une certaine manière, moi je pense que le paradigme qui a véritablement changé la biologie, c'est la théorie de l'évolution.
On parle quand même de 150 ans.
Oui, voilà. Mais 150 ans pour justement l'apparition de la théorie de l'évolution, après l'assimilation de la théorie de l'évolution dans toutes les branches de la biologie, je pense qu'on en est encore parfois, dans certains aspects, même parfois dans la médecine, à une sorte de confrontation de vision du monde. Alors que très très clairement, maintenant, de très très nombreux biologistes s'attardent à le dire, que, pour citer un célèbre biologiste qui s'appelait Dobzhansky, rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et cette idée-là veut dire que on peut comprendre véritablement tous les mécanismes biologiques si on intègre qu'ils sont sous-jacents du mécanisme évolutif.
Mais en même temps, on doit comprendre en intégrant cet aspect-là.
On doit comprendre, mais je pense que justement, si les domaines de la biologie ont perduré sans comprendre l'évolution, ça veut dire que tout simplement, on est capable de faire des découvertes sans véritablement l'assimiler. Je pense qu'il y a énormément de... C'est pas uniquement la science biologique qui est concernée, où on peut avancer sans avoir totalement compris exactement le sujet et les règles primordiales du sujet qu'on étudie. Et donc, en biologie, je pense que c'est exactement le cas. C'est-à-dire...
La théorie de l'évolution est donc encore un bouleversement, est encore quelque chose qu'on doit apprendre vraiment à intégrer.
Je pense que c'est dans les pratiques. Je pense que c'est pas encore un bouleversement dans les esprits des biologistes, mais véritablement de l'intégrer dans toutes les parts de la biologie, c'est encore un travail qui doit se faire. Et je sais pas si c'est du fait de l'inertie de certains domaines de la biologie ou si c'est tout simplement parce que il y a encore des gens qui ont des problèmes à l'assimiler complètement. Ça, je pourrais pas vraiment dire à quoi c'est dû que certains domaines de la biologie ont encore du mal à envisager que ce qu'ils décrivent, c'est véritablement le résultat d'un processus évolutif.
C'est donc beaucoup moins évident qu'on peut le penser quand on fait simplement lire Darwin.
Ah oui, ça c'est sûr. Ben, déjà, lire Darwin, qui sont des idées visiblement très simples à comprendre, et véritablement envisager pleinement le mécanisme évolutif, c'est deux choses totalement différentes. La théorie de l'évolution, elle est très très finalement pernicieuse parce qu'on a l'impression qu'on peut la comprendre très rapidement et au final c'est extrêmement compliqué à envisager pleinement parce qu'on a cette tendance à exagérer certains mécanismes, à anthropomorphiser certains aspects et ne pas se rendre compte véritablement des tenants et des aboutissants de la théorie de l'évolution. Et ça, c'est très, très, encore très, très compliqué.
On oublie encore trop souvent, entre autres, qu'il n'y a pas de but à l'évolution.
Voilà, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu, enfin, moi, personnellement, dans la description de, des relations de parenté entre différents animaux, mm-hmm. on voyait encore cette idée d'un but, encore il y a 20 ou 30 ans. D'aller du plus simple au plus compliqué, ça c'est quelque chose qui n'est pas décrit par la théorie de l'évolution. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une tendance à la complexification des organismes, et pourtant dans la manière dont étaient décrites les relations de parenté, il y avait toujours cette idée qu'on devrait voir des organismes s'apparenter par des degrés de complexification, ce qui n'a pas lieu d'être.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pierre Kerner, biologiste, généticien et aussi vulgarisateur. Donc, avant d'aller un peu dans vos recherches et de creuser un peu cet aspect-là de la génétique, j'aimerais ça prendre un recul et voir pourquoi. Qu'est-ce qui vous a attiré en génétique? Qu'est-ce qui vous a amené?
Alors, la génétique m'a pas attiré particulièrement. À l'époque où j'ai fait mes études, elle était décrite comme la voie d'or pour réaliser de la recherche. Et ça, c'est véritablement faire de la recherche en biologie qui m'intéressait. J'étais intéressé par pas mal d'aspects de la biologie, mais en tout cas, le cursus que j'ai embrassé, qui était le magistère de génétique, c'était un magistère d'excellence avec une sélection à l'entrée. Et tout simplement, c'était une manière tout simple d'obtenir un cursus un petit peu plus universitaire, voilà, un peu plus prestigieux. Mais derrière, la philosophie était très intéressante, puisque je pense que dans ce magistère-là et dans de nombreuses universités, les gens ont compris que la génétique n'allait pas être une fin en soi. L'étude de la génétique n'est pas une fin en soi, mais c'était un outil qui permettait d'ouvrir toutes les portes de la biologie. Et ça, c'est très, très important.
Et pourquoi la biologie, si j'en recule un peu derrière?
Ah, pourquoi la biologie? Je pense que par une facilité à comprendre ces mécanismes. Durant toute ma vie, tout mon cursus, alors que je m'intéressais aux sciences de manière générale, j'avais des facilités à comprendre la biologie. Et du coup, j'ai emprunté la voie de la facilité.
Et vous avez donc continué au doctorat aussi dans l'étude des métazoaires, donc
des animaux,
dans l'étude des évolutives. Donc, on retrouve la génétique ici.
Ouais. Mais encore une fois, c'est l'outil permettant d'étudier cette thématique qu'est l'évolution des animaux. En soi, l'évolution des animaux, on peut l'étudier avec plein d'outils différents, l'anatomie, ce qui a été fait depuis Cuvier, les mécanismes comportementaux. La génétique a le pouvoir de permettre des comparaisons extrêmement efficaces entre des animaux aux morphologies et aux histoires de vie extrêmement différentes. C'est en ça que c'est important pour
Et elle ouvre, c'est aussi un champ presque neuf. Donc, quand vous arrivez là-dedans, il y a très peu de choses qui ont été faites. Ça vous donne quand même pas mal de
facilité. En évolution, surtout dans l'évolution des animaux, en fait, on s'aperçoit très très vite qu'on est sur les épaules de géants et que la plupart des théories expliquant les histoires évolutives des animaux ont déjà été développées et initiées au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et que, en fait, on est souvent amené juste à confirmer des intuitions qui avaient déjà été posées juste en comparaisant les anatomies des organismes. Donc, c'est un pouvoir de confirmation assez important, la génétique.
Mais c'est quand même à la fois des données nouvelles, des aspects que vous pourriez pas regarder avant,
hein, ah oui,
reprenant
sûr.
Le génome avec la facilité aujourd'hui, alors qu'il y a déjà 15 ou 20 ans, c'est impossible d'imaginer.
Moi, typiquement, ouais. Moi, je vois dans le cadre dans lequel je travaille sur un organisme qui s'appelle Platineris dumerelli. C'est un petit ver marin et il ne faisait pas partie des animaux dont le génome était séquencé à l'époque où j'ai commencé à travailler dessus. Et donc, durant mon doctorat, je travaillais sans génome et donc avec les difficultés que pouvaient avoir les premières personnes qui travaillaient sur des organismes comme la drosophile, la souris. pour qui les génomes avaient été séquencés assez rapidement. Et j'ai vu dans mon cursus universitaire la facilité à laquelle les génomes sont disponibles. Et maintenant, le génome de Plati a été séquencé et disponible pour la recherche avec un prix qui est peut-être 100 fois moindre que celui qui concernait l'homme ou la souris ou la mouche.
Oui, probablement beaucoup moins que 100, beaucoup plus que 100 fois moins parce que on parlait à ce moment-là d'années de travail pour séquencer le premier génome humain.
Exactement.
Et qu'est-ce qui vous a ensuite, donc vous êtes resté ensuite dans cette branche-là après comme maître de conférence?
Oui, par passion, tout simplement. L'étude de l'évolution en soi m'intéresse énormément, c'est une thématique extrêmement riche. Je trouve qu'en plus c'est une discipline qui a une communauté derrière qui est vraiment très stimulante, alors que dans certaines autres communautés de la biologie, il y a un peu plus de compétition, un peu plus de recherche destinée à la thérapeutique, alors que celle que j'embrassais est beaucoup plus fondamentale, on essaie d'expliquer des choses drastiquement plus théorique et de jongler justement avec les idées, les théories, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc c'est par passion que je suis resté dans cette thématique.
Mais ça devient aussi une branche beaucoup plus mathématique que la biologie traditionnelle, non?
Pas ce que je sache, en tout cas, moi j'aurais
été... Parce qu'on doit traiter d'énormément de données, on doit les analyser, les statistiques et tout, donc on se déplace un peu, non?
Ça dépend. Moi, personnellement, je ne fais pas appel à mes connaissances mathématiques, heureusement, parce que je suis vraiment très très mauvais dans cette discipline-là. Les outils informatiques qui sont développés justement pour permettre l'étude des génomes sont faits par d'autres équipes que celles qui véritablement appliquent ces données. Donc j'imagine que derrière, il y a énormément de travail mathématique, de modélisation, de gestion de ces données, mais moi je suis qu'un utilisateur de ces applications-là et pas. Je vois pas exactement comment sont établis ce genre d'outils.
Vous pouvez donc vous concentrer vraiment sur les aspects génétiques.
Exactement, ouais. Donc pas de travail de statistique et modélisation, ou peut-être au niveau le plus accessible pour un biologiste.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Pierre Kerner qui nous parle d'évolution. Donc, un de vos intérêts, c'est l'évolution du système nerveux central. Qu'est-ce que c'est d'abord un système nerveux central?
Alors, chez les animaux, on peut observer, pour la plupart, un système nerveux centralisé. Déjà, un système nerveux, ce n'est pas la caractéristique de tous les animaux. Par exemple, les éponges, qui sont des animaux, ils appartiennent au groupe des métazoaires, ne possèdent pas de cellules nerveuses. Les cnidaires, qui sont des méduses, les coraux, possèdent un système nerveux, mais ce système nerveux est lâche, c'est-à-dire qu'on retrouve une sorte de réseau souple, sans centralisation. Mais si vous étudiez des organismes animaux...
Donc, de certaine façon, il n'y a pas de cerveau pour ramasser cette information-là.
Alors, pas de cerveau morphologique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de centre intégrateur morphologique permettant véritablement l'intégration des signaux neurologiques. Alors que lorsqu'on observe d'autres animaux, qu'on appelle les bilatériens, dans lesquels on retrouve une symétrie bilatérale, c'est-à-dire une gauche et une droite, les insectes, les arthropodes, nous, les chordés, les vertébrés, possédons cette symétrie et l'émergence de cette lignée de bilatériens a été accompagnée par l'émergence aussi d'une centralisation du système nerveux, c'est-à-dire qu'on est capable de voir des réseaux de neurones morphologiquement centralisée dans une partie du corps des animaux.
L'information est donc envoyée à une seule place pour être traitée. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Pas vraiment. Enfin, ce serait véritablement caricaturer la situation parce qu'il y a d'une certaine manière plusieurs types de centres intégrateurs dans ce système nerveux central. Parce que, par exemple, chez les chordés, vous avez les vertébrés plus particulièrement, vous avez le cerveau, mais vous avez aussi la moelle épinière qui prolonge le cerveau tout le long dans notre colonne vertébrale. Et cette zone d'intégration est aussi à part entière un centre intégrateur neurologique. Mais on peut aussi retrouver d'autres centres. On parle maintenant, par exemple, de neurones capables d'intégrer des informations au niveau du système digestif. Donc bon, la situation n'est pas si simple que ça. Mais morphologiquement, elle l'est. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître un groupe de neurones, de nerfs et de neurones, qui se retrouvent au centre, centralisés, concentrés, dans une partie de l'animal. Et ce qui m'intéresse, moi, c'était de reconstituer l'histoire évolutive de cette centralisation. Notamment le fait que, par exemple, on retrouve ce centre organisateur dans deux parties différentes des animaux en fonction de la lignée à laquelle il appartient. Par exemple, si vous étudiez un arthropode, un crustacé, un insecte, vous allez voir que le système nerveux central se trouve dans la partie ventrale. Alors que vous observez un vertébré, se trouve dans la partie dorsale. Et donc, ça a permis d'émettre deux hypothèses concernant la centralisation du système nerveux. Est-ce que c'était apparu deux fois au cours de l'évolution? Ou est-ce que c'est apparu une fois, mais qu'il y a eu une inversion de l'axe dorso-ventral entre ces deux lignées? Et donc ça, une partie de mes recherches a contribué justement à élaborer des hypothèses pour corroborer l'une ou l'autre d'hypothèses. Et à l'heure actuelle, celle qui est privilégiée, c'est celle de l'inversion dorso-ventrale.
Donc une seule apparition.
Voilà, avec une inversion. Mmh. Comme si nous étions, et d'ailleurs c'est ça que je vous disais précédemment quand je vous parlais des épaules des géants et des théories qui étaient développées très très bien avant l'émergence de la génétique, on a corroboré des hypothèses du 19e siècle dans lesquelles des fins anatomistes et zoologistes comparait l'humain, les vertébrés, à un homard inversé, dans lequel justement on retrouvait la colonne vertébrale. Enfin, il n'y a pas de colonne vertébrale dans un homard, mais ce système nerveux centralisé ventral dans la partie dorsale chez les vertébrés.
Et pourquoi est-ce que cette question-là est pertinente?
Alors, généralement, c'est tout simplement pour s'attarder à une des parties de l'histoire évolutive qu'on peut étudier. En soi, c'est de la science fondamentale. On essaye d'augmenter nos connaissances sur le monde qui nous entoure. Bon, typiquement, on peut s'attarder à n'importe quel niveau. Mais je pense que ce qui fascine énormément de biologistes, c'est justement cette comparaison du système nerveux. Et d'être capable de reconstituer l'histoire évolutive précise du système nerveux, ça peut aussi, dans une certaine mesure, comprendre à quel point ces mécanismes neurologiques sont conservés chez les animaux. Et plus on augmentera notre connaissance, plus on aura de chances de comprendre véritablement ce qui est caractéristique de la cognition chez tous les animaux. Donc ça a aussi un impact aussi sur la manière dont on envisage justement cet aspect-là chez les animaux.
Et l'autre hypothèse était de dire le système nerveux se serait centralisé de manière indépendante.
Voilà.
Ici, on obtiendrait d'une certaine façon un mécanisme peut-être plus fort vers la centralisation, non?
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire.
Si on a deux chemins pour arriver à un système centralisé, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait donc certaines forces d'évolutif forte pour ramener ce genre de mécanisme.
Oui, donc le mécanisme qui serait sous-jacent derrière une centralisation indépendante, ce serait la convergence évolutive. Et il est vrai que généralement, quand on compare des mécanismes de convergence évolutive, on subodore que si des caractéristiques, par exemple, apparaissent plusieurs fois au cours de l'évolution dans des lignées indépendantes, c'est qu'il y a un fort attrait sélectif, un fort avantage sélectif derrière l'émergence, la sélection de ces caractéristiques. Par exemple, on peut le voir pour l'écholocation qu'on retrouve chez les chauves-souris. Mmh.
Et donc
chez
la capacité de se repérer avec le son.
Avec un sonar. Ouais, un sonar. On retrouve ça chez les dauphins, chez les chauves-souris, et c'est quelque chose qui est apparu indépendamment au cours de l'évolution. Donc ça doit être un avantage extrêmement important.
Et ça serait pas le cas présentement pour la centralisation du système nerveux?
Pour l'instant, ça a été la théorie inverse a été corroboré par de nombreuses données génétiques, justement, qui ont appuyé sur le fait que de nombreux mécanismes génétiques sous-jacents de la centralisation au cours du développement du système nerveux chez ces animaux-là étaient conservés et du coup laissaient entendre qu'on avait
donc une conservation. Donc on retrouve les mêmes étapes, on retrouve même au niveau le plus bas, on retrouve les mêmes étapes pour centraliser. Et voilà. C'est ce qui vous fait dire on pourrait pas développer deux chemins où toutes les étapes intermédiaires seraient exactement similaires ou identiques.
Voilà, c'est qu'on a une boîte à outils génétiques pour permettre au cours du développement de l'animal, c'est-à-dire qu'au cours de l'embryologie de l'animal, de former la centralisation du système nerveux. Et cette boîte à outils génétiques, elle est faite de nombreux gènes, et ces gènes sont homologues, c'est-à-dire sont similaires, entre ceux des vertébrés et ceux des arthropodes, et en plus, ils ont la même fonction, donc d'avoir tout un panel de gènes qui servent à la même fonction laisse entendre que justement on n'a pas, c'est très très peu probable que justement ce soit acquis indépendamment au cours de l'évolution.
Et pour les systèmes nerveux non centralisés, est-ce que ça implique une interaction plus faible avec l'environnement? Qu'est-ce que ça signifie sur la capacité d'interaction?
Justement, ça fait partie des perspectives qu'on essaie d'étudier maintenant en comparant non plus les organismes bilatériens entre eux, mais en essayant de comparer ce qui se passe entre les organismes bilatériens et ceux qui ne sont pas bilatériens, par exemple les cnidaires, voire les éponges. Et on arrive de plus en plus à une situation compliquée, puisque on retrouve des gènes qui sont exprimés dans certaines cellules d'éponges, qui n'ont pas de neurones, et qui peuvent potentiellement interagir avec leur milieu externe. Donc on voit quelque chose de beaucoup plus progressif au cours de l'évolution que ce qu'on pouvait imaginer entre des organismes sans neurones et des organismes avec neurones, avec des organismes avec un système nerveux centralisé et ceux qui ne l'ont pas.
Donc même sans système nerveux du tout, il y a un moyen d'aller
d'acquérir des informations du système de l'environnement, de l'intégrer et de répondre correctement.
Et ces mécanismes-là restent ensuite chez les autres animaux?
Voilà, ils auraient été hérités d'un ancêtre commun, et on essaie de maintenant reconstituer un tout petit peu justement cette situation entre tous les animaux pour voir qu'est-ce qui était hérité d'un ancêtre commun, qu'est-ce qui était ancestral, et qu'est-ce qui figure véritablement des innovations pour certaines des lignées qu'on connaît aujourd'hui.
Restez avec nous, notre entretien avec Pierre Kerner se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pierre Kerner, génétiste, biologiste, qui nous parle de ses travaux, mais aussi de ses activités en vulgarisation scientifique. Avant d'en arriver là, vous vous intéressez, et vous avez publié d'ailleurs des billets là-dessus, à la relation entre l'Homo sapiens et l'éponge dont vous parliez déjà tout à l'heure.
Oui, bah... Dans mon travail de vulgarisation ou même dans mon travail d'enseignant, je me confronte énormément à la situation où il faut que j'essaye de briser une certaine vue de l'organisation du vivant où les gens envisagent Homo sapiens comme étant le paragon de l'évolution. Et comme on en a discuté tout à l'heure, l'évolution n'allant pas dans une direction privilégiée...
On n'est pas à un sommet, finalement.
Voilà,
notre espèce n'est pas un sommet.
Une bactérie peut être un sommet dans une autre perspective. Donc il n'y a pas du tout cette organisation du vivant allant du plus simple au plus compliqué, de l'organisme le plus simple qu'une bactérie, jusqu'au plus compliqué, entre guillemets, que pourrait être Homo sapiens. Il y a d'autres organismes animaux, voire des plantes qui ont des génomes conséquents, des plantes qui ont beaucoup plus de gènes qu'un humain. Et donc, d'une certaine manière, je suis amené à briser cette vue de l'évolution et des relations de parenté entre animaux. Et une des surprises que j'essaie de présenter, justement, c'est la position phylogénétique, c'est-à-dire des relations de parenté entre différents animaux, notamment celui de l'éponge avec l'humain.
Et ici, le séquençage, la génétique, nous offre quelques surprises.
Oui, alors, depuis justement les outils génétiques, on est arrivé à un énorme remaniement de l'arbre du vivant et notamment de l'arbre des relations de parenté des animaux. Et très récemment, en effet, j'ai publié un billet dans lequel je parle de nouvelles recherches, sans véritablement confirmation, bien sûr, mais qui montrent que nous serions, nous, humains, plus proches de l'éponge que nous l'envisagions récemment. En effet, c'est grâce au séquençage du génome d'un animal qui s'appelle un cténophore, c'est quelque chose d'extrêmement joli, très beau, qui est une sorte de... il y a à peu près une centaine d'espèces de cténophores connues à l'heure actuelle, une sorte de petite boule, un petit peu comme une méduse, on dirait, sauf qu'elle porte généralement 8 rangées de cils. Et ces organismes-là, sont assez rarement étudiés, mais quelques équipes se sont attardées à séquencer son génome, et l'obtention du séquençage du génome d'un cténophore a permis de réarranger l'arbre des relations de parenté entre métazoaires, sachant que ce n'est pas encore confirmé, c'est quelque chose qui a été publié très très récemment, et donc il y a encore énormément de travail qui doit être fait pour confirmer ce genre d'hypothèse. Mais l'idée, ce serait que ce ne sont plus les éponges qui sont les plus proches, les éponges qui seraient la lignée ayant émergé le plus précocement au sein des animaux.
Donc quand on parle de l'arbre, on parle d'un ancêtre commun et avec des branches qui vont se séparer à un moment donné.
Voilà.
Et ce qu'on essaie de voir, c'est à quel moment est-ce que la branche qui mène aux mammifères, par exemple, se sépare des différents autres
animaux.
De chacun, en fait.
Exactement. Donc on essaie de reconstituer, ça s'appelle la phylogénétique, on essaie de reconstituer les relations de parenté entre tous les animaux. Et donc nécessairement, comme dans un arbre généalogique, on voit que certaines lignées quittent plus précocement l'arbre qui amènera à la famille que vous étudiez. Il y a plusieurs décennies, on pensait que les éponges formaient un groupe qui était le plus basal, entre guillemets, celui qui a quitté l'arbre des métazoaires le plus précocement, la lignée la plus précoce des métazoaires. Et il s'avère maintenant qu'en étudiant le génome de ce cténophore, cette place a été remplacée par celui des cténophores. Or, les cténophores sont des animaux qui possèdent un système nerveux et qui possèdent un comportement, qui sont assez complexes au final. Donc, si cette hypothèse venait à être vérifiée, que cette place était briguée par les cténophores et non plus les éponges, ça voudrait dire que les éponges constituent une lignée de métazoaires qui auraient perdu leur système nerveux. Et encore une fois, ça c'est quelque chose d'extrêmement intrigant pour des biologistes, de voir que, alors qu'on met le système nerveux comme étant quelque chose qui était une innovation majeure au cours de l'évolution, de la remplacer par quelque chose qui est très labile et que certaines lignées peuvent perdre au profit d'autres comportements.
C'est quelque chose qui n'est pas aussi fixé qu'on le pense dans le développement de la vie.
Et aussi important pour l'évolution, et que les éponges pourraient faire 100 neurones et pulluler. On voit des éponges dans toutes les mers, voire parfois dans des eaux douces. Donc c'est quelque chose de pour moi, qui est une hypothèse assez intéressante, mais elle reste à être confirmée.
Et ce que vous voyez aussi, on en parle un peu, c'est la question donc de tous les mécanismes moléculaires qu'on retrouve, de ce qu'on a les facteurs de transcription qu'on retrouve à la fois dans l'éponge et dans les organismes plus avancés, je sais.
Alors avancé, malheureusement, c'est pas le bon terme, mais voilà, quand je vous disais que la théorie de l'évolution, c'est quelque chose de compliqué à gérer, c'est qu'on a un panel de vocabulaire pour parler d'évolution qui est totalement inadapté, et moi-même, alors que je devrais avoir pris l'habitude depuis le temps, je me vois à lutter pour trouver les termes les plus corrects pour parler d'évolution, et en effet, on a envie de parler d'avancée, alors que ce qu'on devrait dire, c'est juste... complexe, et encore, c'est tout relatif. Et donc, il n'y a pas d'avancée de l'évolution, il y a des organismes plus ou moins complexes, et on s'aperçoit, là, de plus en plus, que la complexité n'est pas une fin en soi, et que des mécanismes évolutifs peuvent aller vers la simplification des organismes, des plans d'organisation. Et donc, là, pour le système nerveux, il y aurait eu une perte chez les éponges, avec éventuellement certains facteurs de transcription qui sont conservés à l'échelle de tous les animaux, impliquées dans la formation du système nerveux chez des organismes comme les mammifères, les vertébrés, les arthropodes, etc., et qu'on retrouverait aussi chez les éponges.
Donc sous forme de latente, à ce moment-là ?
Alors, soit sous forme latente, soit sous forme plutôt de vestiges. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on retrouve au cours de l'évolution de nombreux vestiges dans notre propre ligne, et celle des humains. Par exemple, si vous regardez votre coccyx, c'est un vestige anatomique de l'histoire évolutive qui a mené à notre lignée. Eh bien, de plus en plus, grâce à la génétique, on voit que ces vestiges peuvent aussi concerner des gènes encore présents dans des génomes de métazoaires et qui pourtant n'ont plus la même fonction, ont perdu la fonction ou une fonction modifiée, voire même sont portés par le génome sans véritablement de fonction. Et on parle donc vraiment de gènes vestigiaux.
Et on s'aperçoit que ces gènes-là sont très présents encore dans tous les génomes, ou est-ce que ça reste quelque chose d'inhabituel,
Bah, c'est très très difficile. C'est très difficile à évaluer. À une époque, on aurait pu penser que c'était en effet le cas, c'est-à-dire que énormément de gènes vestigiaux existaient parce qu'on n'arrivait pas véritablement à trouver leur fonction. Mais de plus en plus de niveaux de l'étude génétique et de l'étude d'expression des gènes nous montrent que peut-être qu'on arrive à des conclusions assez hâtives concernant la fonction de ces parties de génome vestigial. Donc la question reste encore ouverte. On ne sait pas véritablement si c'est des vestiges qui n'ont absolument aucune fonction
ou si ils ont été recyclés dans d'autres
cooptés pour d'autres fonctions. Ouais. C'est encore un domaine très très vif de la recherche.
Pierre Kerner, au-delà de vos travaux de recherche, vous êtes aussi très actif en vulgarisation scientifique. Donc, vous êtes actif sur le site ssaft.com, donc Strange Stuff and Funky Things, saft.com, où vous utilisez le nom Taupo, T-A-U-P-O. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette partie-là
Alors,
de la science?
J'ai découvert, moi, la vulgarisation scientifique pendant mon cursus universitaire, pendant mes études, notamment parce que ça me permettait de comprendre certains aspects de la science. De toute façon, même pendant toute mon enfance, hein, j'étais fasciné par la science, donc nécessairement, j'achetais des magazines de vulgarisation scientifique, mais pendant mes études, j'étais amené à lire des articles, et parfois, je trouvais plus d'informations pertinentes et divertissantes sur des blogs ou sur des magazines. Et du coup, je me suis dit un jour que j'aimerais bien me frotter à cet exercice-là. J'aime bien écrire de manière générale et je me suis retrouvé à essayer d'écrire des aspects de vulgarisation. Bon, et aussi, c'est très, très lié à mon enthousiasme vis-à-vis de l'enseignement. J'adore l'enseignement et du coup, c'est une manière d'enseigner par la vulgarisation.
Donc, le défi ici, c'est quoi ?
Divertir et faire comprendre. Pour moi, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que l'enseignement, je suis très attaché à transmettre des connaissances, mais si c'est transmettre des connaissances en étant le plus rébarbatif possible, je pense qu'il y a nécessairement certaines personnes qui ne vont pas être amenées à s'intéresser au sujet. Donc, c'est de rendre des sujets qui parfois peuvent être extrêmement compliqués les plus accessibles possible, et ça passe généralement, pour moi, par l'humour ou par l'art. Et de montrer les parties les plus visuelles ou la beauté cachée, de révéler la beauté de certains aspects de la science.
Oui, parce que vos billets contiennent beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, ils sont très, très visuels.
Oui, exactement. Moi, je suis très attaché à l'image, je suis photographe amateur à mes heures perdues, et j'ai vu très, très souvent que via l'illustration, que ce soit l'illustration photographique, l'illustration audiophonique ou même l'illustration par des dessins, donc, l'illustration pure, on amenait énormément d'informations qui parfois uniquement du texte ou uniquement des informations ne pouvaient pas laisser passer. On dit souvent que une image peut remplacer les plus beaux discours, et je pense que c'est quelque chose de très vrai, surtout pour la vulgarisation.
Déjà, les scientifiques croulent sous l'information. Alors, pour le grand public, c'est encore plus difficile de savoir à quelle source même se tourner pour comprendre un peu le monde qui les entoure.
Oui, mais du coup, je suis pas sûr de pouvoir contribuer à ça, puisque d'une certaine manière, j'ai l'impression d'appâter l'intérêt, parfois en masquant un tout petit peu la complexité sous-jacente de sujets. Donc, j'essaye de limiter ça, mais c'est malheureusement quelque chose qui est très très courant dans la vulgarisation scientifique, c'était d'essayer de sursimplifier des sujets. Mais c'est quelque chose de très pertinent et que je me pose souvent, quelle est la part d'exhaustivité et de véracité qu'il faut garder pour pouvoir maintenir l'intérêt des lecteurs qui ne sont pas attirés spontanément par un sujet scientifique.
Et en biologie, vous avez quand même des grands exemples de vulgarisateurs scientifiques. On peut commencer même avec Darwin ou avant. Donc, comment est-ce que vous vous placez? Comment est-ce que la vulgarisation scientifique est perçue dans cette science-là? Parce qu'il y a d'autres disciplines où, en fait, on a assez peu de contact avec le grand public.
Oui. Encore une fois, je pense que justement la biologie, c'est un des aspects les plus faciles pour attirer le grand public, d'une certaine manière, puisque tout le monde est un peu concerné par la chose biologique. Dès qu'on rentre, par exemple, dans la génétique, là, on retrouve un tout petit peu le problème qui peut justement concerner des physiciens, des mathématiciens, etc. Donc, de mon point de vue, j'ai vu les deux aspects. C'est-à-dire que quand je parle de mécanismes zoologiques, de parasitisme, etc., c'est très 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 facile d'intéresser un public. Dès que je parle de mécanismes purement génétiques, évolutifs,
plus abstraits,
voilà, là nécessairement on se retrouve à un gros problème d'essayer de divertir le public grâce à ça. Donc pour moi c'est pas encore résolu, mais c'est sûr que la question est posée, et de savoir comment attirer le regard, titiller l'investissement du grand public dans ces questions-là. Donc je sais pas exactement qui est bon dans ces cas-là.
Et peut-être de toutes les grandes lois de la nature, l'évolution reste encore une loi qui est débattue par le grand public, moins en France certainement, mais ça reste encore...
Malheureusement, ça devient courant en France, cette manière de débattre l'évolution. Oui, c'est quelque chose qui est débattu, bizarrement, alors que moi je compare toujours avec la tectonique des plaques, qui est une théorie qui a succédé à la théorie de l'évolution et qui est beaucoup moins débattue, bizarrement,
qui, elle, essentiellement explique le déplacement des continents.
Voilà, des masses continentales, une théorie qui est apparue et qui s'est finalisée très tardivement au cours de la recherche scientifique, qui est très très peu débattu, et pourtant qui peut mettre à mal des convictions de la même manière que pourrait mettre à mal les convictions évolutives. Donc pour moi, je trouve que c'est marrant à quel point certaines théories sont très rapidement stigmatisées et deviennent la cible préférée de personnes qui elles ont l'impression que la théorie va à l'encontre de leurs convictions.
Et pour vous, c'est lassant comme biologiste, ou est-ce que c'est quelque chose auquel il faut faire face?
Alors, pour moi, c'est pas lassant. C'est un des aspects, par exemple, qui m'intéresse dans la vulgarisation. C'est effrayant par certains aspects, parce qu'on se retrouve face à une ignorance cultivée. Et ça, c'est très très dur de voir ça, parce qu'on comprend que certaines personnes réalisent ce que c'est que la théorie de l'évolution et falsifient les faits évolutifs.
Et vous avez d'ailleurs un billet là-dessus, L'art de leurrer, où vous revenez sur un livre qui maltraite la théorie de l'évolution via toutes sortes de fausses représentations.
Donc c'est l'Atlas de la création de Haroun Yahya, qui est un faux scientifique turc qui a justement envoyé cet Atlas de la création, qui est censé remettre en cause la théorie de l'évolution avec des preuves, entre guillemets, et qui a été transféré. Donc c'est un énorme livre dont l'édition a dû coûter extrêmement cher, puisqu'il y a de très très nombreuses illustrations, et qui est censée justement mettre à mal la théorie de l'évolution. Elle a été envoyée gratuitement à des universitaires et à des écoles. Donc, la personne qui est derrière cet ouvrage est très très riche, et donc on comprend que à travers cette opération, il y a eu une envie de nuire à la théorie de l'évolution, de nuire à l'enseignement de la théorie de l'évolution, à travers des preuves qui s'avèrent en plus totalement erronées et falsifiées dans la plupart du temps. Donc dans le biais que vous avez mentionné, l'art de leurrer, je montre par exemple que certaines des photos qui sont utilisées dans cet atlas de création, censées montrer la ressemblance entre des fossiles et des animaux vivants à l'heure actuelle, montrent à la place d'animaux vivants à l'heure actuelle des leurres pour pêcher. Donc la pertinence morphologique entre un leurre pour pêcher du poisson et un véritable organisme fossilisé est plus que doutable.
Mais vous savez aussi vous amuser en parlant, par exemple, de comment les animaux mangent ou de toutes sortes de thèmes qui sont parfois plus légers.
Oui, alors ça, c'est un des aspects les plus... qui caractérise le plus souvent ça caractérise déjà le titre de mon blog, Strange Stuff and Funky Things, donc funky pour parler de choses marrantes, divertissantes, d'une part parce que j'en suis friand moi-même, donc je vais souvent sur internet pour essayer de trouver des phénomènes biologiques étonnants, marrants, etc. Et donc pour le billet que vous venez de mentionner, j'essaie de montrer à quel point les techniques culinaires des animaux peuvent nous paraître répugnantes, même si elles sont extrêmement courantes. Par exemple, la coprophagie, et j'essaye systématiquement d'instiller à travers ces aspects étranges, quand même un petit peu de science. Donc la coprophagie, le fait de manger des crottes, est très très répandu chez des animaux. Pour certains, c'est parce que c'est leur mode d'obtention de calories, donc de nutriments, et pour d'autres, c'est pour fortifier, c'est le cas des éléphants, de fortifier leur système immunitaire, justement, en diversifiant leur propre flore et faune bactérienne grâce à la crotte de leurs parents. Voilà.
Et votre blog est intégré dans le site du Café des Sciences.
Oui, c'est une plateforme qui regroupe de très très nombreux blogs francophones, et dont j'en suis le vice-président, et qui, justement, essaye de plus en plus d'agréger des blogs francophones scientifiques et qui aiment la science. Et donc, ce ne sont pas uniquement des blogs français, il y a aussi des blogs québécois, il y a aussi des blogs suisses, belges, qui aiment à parler de science et qui vont dans toutes les disciplines, que ce soit la physique, les mathématiques, la biologie, ou même parfois juste discuter du monde de la recherche.
Et vous allez au-delà, donc, de ces continents? On peut espérer voir l'Afrique ou le...
Nous avons un blog africain qui a rejoint récemment le Café des Sciences, et nous espérons avoir les blogs de tous les aspects. La seule chose que nous essayons de développer, c'est la francophonie et de parler de la science en français pour que ça soit un aspect un peu plus présent dans le monde francophone.
Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie, et nous sommes en compagnie de Pierre Kerner, biologiste, généticien. Il reste encore beaucoup de choses à faire en génétique.
Certainement.
On ne fait que commencer présentement à construire les bases de données pour faire les analyses futures.
Bon, déjà je l'espère, sinon je n'ai pas beaucoup de travail. Donc oui, il y a énormément de travail à faire, tant d'un point de vue théorique, où on doit... encore une fois, véritablement s'assurer de tout comprendre sur les mécanismes héréditaires. Il y a par exemple un pan énorme qui est en train de s'affermir dans la biologie, qui est l'épigénétique, de comprendre tous les mécanismes de transmission de caractères héréditaires sans passer par le matériel génétique, sans passer par l'ADN. Donc il y a énormément de données qui sont en train de justement d'essayer de comprendre.
Et vous pouvez nous donner un exemple, parce qu'en principe, ce qu'on transmet, c'est les gènes, l'ADN seulement.
Voilà, et bien de plus en plus de données tendent à montrer que au moment de la fécondation, il y a d'autres informations qui passent, notamment à travers les facteurs qui sont à l'intérieur des cellules des gamètes qui vont être transmises de la génération à l'autre, mais également au niveau de l'état de l'ADN. C'est-à-dire que très très souvent, on pensait que l'ADN ne faisait que coder à travers la séquence de nucléotides, donc ce sont ces bases azotées A, T, G, C, et on s'aperçoit maintenant de plus en plus qu'il y a d'autres informations qui sont sur la molécule d'ADN, mais qui ne concernent pas ces bases azotées. Par exemple, la conformation de la molécule d'ADN en soi va influencer les caractères exprimés à la génération ultérieure. Et ça, c'est assez fascinant, puisqu'on peut s'apercevoir que ces mécanismes-là, qui sont donc des caractères transmis, peuvent parfois être acquis au cours de la vie d'un des parents. Et ça, c'est très très intéressant, parce que ça remet au goût du jour certaines théories. Voilà, l'idée qu'il y a une certaine transmission de caractères acquis. Donc c'est encore une discipline jeune, mais qui, je pense, à force, arrivera à éclaircir un tout petit peu certains mécanismes, voire parfois des mécanismes évolutifs.
Et du côté de la communication scientifique vers le grand public, vous êtes encore jeune, vous commencez votre carrière.
Oui.
Alors, c'est toujours un peu difficile d'équilibrer l'ensemble de nos activités.
Très certainement. J'en suis encore à apprendre, à tâtonner, à lutter vers ce genre d'organisation de vie, puisque c'est finalement assez complexe. Pour l'instant, ce que je m'aperçois dans ma carrière de maître de conférence, c'est que c'est très 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 difficile de maintenir correctement une activité de recherche parallèlement aux enseignements et toute autre activité qu'on veut entreprendre. Bon, moi, par exemple, l'activité de vulgarisation scientifique prend la majorité de mes temps... comment on dit ?
Libre.
Voilà, de mes temps libres, qui ne le sont plus, malheureusement. Donc, c'est un choix de vie. Mais même en dehors de ça, on s'aperçoit très très vite que la communication scientifique est pas quelque chose qui est spontanément favorisé, en tout cas dans les universités françaises. C'est-à-dire qu'on ne fait, il y a pas beaucoup d'efforts qui sont développés pour que les chercheurs parlent de leur propre travail. Généralement, ça part plutôt de l'initiative d'un chercheur ou de l'initiative de certains médias. Qui vont contacter les chercheurs, mais pas vraiment quelque chose qui est institutionnalisé. Et ça, ce serait, à mon avis, quelque chose à faire.
Pour remettre un peu la science telle qu'elle se fait au quotidien dans les mains du grand public.
Et puis banaliser cette interaction entre le grand public et les scientifiques. Je pense que c'est dommage que certaines personnes du grand public pensent encore qu'il y a quelque chose à acquérir pour pouvoir dialoguer avec un scientifique. Il ne devrait pas y avoir cette distance. Et on devrait, d'une part, que les scientifiques comprennent qu'ils ont systématiquement la nécessité, enfin, qu'ils doivent communiquer avec le grand public. Ça devrait faire partie d'un de leurs devoirs de chercheurs. Et de l'autre côté, que le grand public arrive à exiger des scientifiques d'avoir systématiquement une clarification de leur recherche, puisque d'une certaine manière, la plupart de ces recherches sont payées par les deniers publics.
Et aussi, elles sont pertinentes d'une façon ou d'une autre pour la compréhension de notre monde.
Oui, et ça, justement, quand je dis que ça devrait être banalisé, ça devrait être tout simplement quelque chose de commun, que des personnes de tous les jours se demandent, bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire de recherche, qu'est-ce que mes universités permettent de comprendre du monde qui m'entoure.
Pierre Kerner, maître de conférence à l'Université Paris-Diderot, chercheur à l'Institut Jacques Monod, également actif sur la toile, entre autres, sous le pseudonyme de Topo, sur le site ssaft.com, donc Strange Stuff
from... And Funky Things. J'aurais dû choisir un autre nom, je pense. Mais SAFT, ça marche très très bien, SSAFT.
Oui, voilà, SSAFT.com. Donc je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
Merci.
Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, l'Université de Montréal et, pour les enregistrements à Paris, l'Université Pierre et Marie Curie et le CNRS. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site internet de La Grande Équation, Vous pourrez aussi lire les billets de Pierre Kerner sur le site ssaft.com. L'émission sera disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.